C'est pour moi une grande joie de pouvoir vous apporter un message. Je l'ai fait pendant plus de 40 ans, en continuant encore bien au-delà de ma retraite, parce que j'aimais toujours apporter la parole de Dieu, qui est pain de vie. Hein. La parole de Dieu est pain de vie, dont nous avons tant besoin. Et je me propose de partager avec vous un texte qui m'est devenu très cher, qui se trouve dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 3e, dans les versets 14 à 21. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. Qu'est-ce que c'est que cela? À cause de quoi l'apôtre Paul fléchit les genoux devant le Père céleste? Nous l'apprenons par les derniers versets du deuxième chapitre de ce même épître. Il s'adresse aux croyants d'Éphèse, en disant « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Il s'adresse donc à cette communauté d'Éphèse qui était en grande majorité d'origine païenne. Donc des gens qui ont vécu dans l'obscurité de ce monde, qui n'avaient aucune notion d'un Dieu d'amour, d'un Dieu créateur, qui adoraient des divinités qu'ils avaient inventées eux-mêmes, mais qui ne leur aient donné aucun secours. C'est à cette communauté que Paul s'adresse. Pour leur dire, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. S'il fait cette prière en fléchissant les genoux, ce geste de fléchir les genoux devait exprimer toute la vénération qu'il avait pour son Dieu, la grandeur de ce Dieu qu'il a eu le privilège de connaître, de rencontrer en Jésus. Et en leur disant cela, il met l'accent sur quelque chose qui est fondamental dans la foi chrétienne, c'est qu'il doit se laisser fortifier par l'esprit de l'homme intérieur afin de pouvoir vivre selon la parole et la grâce que tu leur as accordée. S'il adresse une telle prière à Dieu, c'est que Paul savait que cette communauté vivait toujours à Éphèse, au milieu d'une société qui restait ce qu'ils étaient eux-mêmes auparavant. Et qu'ils étaient tentés de se laisser peut-être contaminer par cette mentalité qui régnait autour d'eux. Et que par conséquent, ils avaient besoin d'être fortifiés dans l'homme intérieur. Encore faut-il savoir ce qu'il entendait par là, par l'homme intérieur. Qu'est-ce que c'est que ce l'homme intérieur? Mais on l'a appris dimanche dernier par le message sur l'entretien de Jésus avec Nicodème, où Jésus dit à Nicodème, « Si vous ne naissiez de nouveau, vous ne pouvez pas voir le royaume de Dieu. » Et la nouvelle naissance donne justement naissance à l'homme intérieur, qui se distingue radicalement de l'homme extérieur. L'homme intérieur est le fruit de la grâce de Dieu. Cette grâce qui est apparue au moment venu et qui nous enseigne à renoncer à toute impiété. Beaucoup s'imaginent qu'ils ne sont pas particulièrement pécheurs ou coupables, parce qu'ils n'ont pas commis, un divorce ou un viol, ou je ne sais pas quoi, ou un vol. Alors que dans ce texte, il est dit que la grâce de Dieu, c'est dans l'Épître à Tite, qu'il est dit que la grâce de Dieu est venue pour nous enseigner à renoncer à l'impiété. Qu'est-ce que c'est que l'impiété? C'est justement ce qui règne le plus dans notre monde. C'est que Dieu, pour nous, est chose secondaire. Et vous savez fort bien que la situation n'a pas changé depuis que Jésus était venu sur terre. Vous fréquentez des copains, vous fréquentez des familles, des amis, je ne sais pas quoi, mais si vous leur parlez de Dieu, ils se mettent à bâiller. Ça ne les intéresse pas. Ça les ennuie. Je parle souvent à un homme qui passe par de grandes difficultés et je lui dis, mais mon cher, il ne faut pas regarder à tes problèmes, il faut regarder à Jésus-Christ. Oh, écoute, j'aimerais parler d'autre chose avec toi. Et voilà pourquoi Paul prend ça très au sérieux de lui donner cette recommandation de se laisser fortifier dans l'homme intérieur par l'Esprit de Dieu. Étant enraciné et fondé sur l'amour, par la foi en Christ, se laisser fortifier par la foi en Christ. À la foi. La foi, qu'est-ce que la foi? Quand j'avais des entretiens avec des jeunes qui allaient se marier, et qu'au bout d'un certain temps, ayant parlé de choses et d'autres, je leur posais la question, qu'en est-il du point de vue foi? Ah, on est croyant, monsieur le pasteur. Il faut bien croire en quelque chose. Je disais, qu'est-ce que vous dites là? Il faut croire en quelque chose, ça veut dire quoi? C'est vrai, il faut croire en quelque chose, mais en quoi? Pensez-vous que Dieu est quelque chose alors que vous êtes une personne? Et que Dieu, votre Créateur, ne soit pas aussi une personne? Il est quelqu'un qui a du cœur, qui a de l'intelligence, qui a de la volonté. C'est quelqu'un. Alors, il faut le connaître. Et je le disais à ces deux, alors, vous avez intérêt, vous aussi, à vous connaître. Ne pas vous marier comme ça, à la légère. Vous avez intérêt à apprendre à vous connaître. Parce qu'il se peut que vous fassiez une idée de l'autre qui ne correspond pas du tout à ce qu'il est réellement. D'où, si facilement, des divorces. On est déçu. On est déçu. Parce qu'on ne s'est pas donné la peine de connaître l'autre tel qu'il est. Tel que je dois l'accueillir et être là pour lui. Alors j'aime bien répéter que oui, on a intérêt à se connaître en tant que jeune marié, comme on a intérêt à connaître Dieu, pour savoir à qui on a affaire. À qui on a affaire. Mais là aussi, quand on parle de Dieu, déjà dans l'Ancien Testament, il dit dans un psaume, l'insensé dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu. L'insensé. Eux qui se croient plus malins que les autres, que les croyants, la Bible les traite d'insensés. Parce qu'il faut être insensé pour croire qu'il n'y a pas de Dieu. C'est logique. C'est logique qu'il y a un Dieu. Et je leur dis, s'il y a de la menuiserie, c'est qu'il y a un menuisier. Il n'y aura pas de menuisier, il n'y aura pas de menuiserie. S'il y a une création, c'est qu'il y a un créateur. Forcément. C'est logique. Ça, c'est la logique pure. Mais les plus grands savants n'en veulent rien savoir. Et essayent de croire que le monde s'est fait par évolution, par hasard. Par hasard, est apparue là une petite bestiole hein, qui a commencé par se multiplier et puis ça a donné ce que ça a donné. Hein. Formidable. Que le hasard fait des choses formidables. D'ailleurs, j'ai posé à la famille qui était réunie pour un baptême, posé la question, quel est l'ingénieur le plus ingénieux, le plus extraordinaire et le plus stupide? La réponse est simple, c'est le hasard. C'est le hasard. Parce que le malheureux a fini par s'exclure, hein. Il n'y a plus de hasard. On sait très bien que si on laisse faire le hasard, hein, le résultat est magnifique. Mais voilà que le hasard a fait que le hasard n'existe plus. D'où la stupidité de ceux qui veulent faire croire que le monde s'est fait tout seul. Et alors on cherche l'origine. L'origine. Et puis quand j'étais jeune, je ne sais plus de... On remontait l'origine à combien de millions d'années, maintenant ça fait des milliards. Alors je me dis, ben mon vieux, tu as trop vite vieilli. Hein. Oui. Le monde est bien le lien, bien la création de Dieu. Et maintenant venons-en à l'amour de Dieu. Parce qu'il est dit dans ce fameux verset de Jean 3, verset 16, Tu as tellement aimé le monde qu'il a donné son fils. Il a tellement aimé le monde qu'il a donné son fils. Comment Dieu peut-il encore aimer ce monde qui à l'origine était merveilleux? Nous lisons en effet qu'à la fin de sa création, Dieu a regardé toutes choses et a trouvé que tout était très bon. Tout était très bon. Bon, on constate que ça ne l'est plus. Hein. Et c'est bien par la faute de l'homme que le monde est devenu ce qu'il est actuellement. Plein de corruption, de pollution dans tous les domaines, physique et moral. Hein. Et que Dieu avait créé l'homme à sa ressemblance. Dieu a créé l'homme à sa ressemblance. Mais il a pu ressembler à quoi? Adam a pu ressembler à quoi? Est-ce qu'il était de race aryenne? Ou de race latine? Ou africaine? Mais la ressemblance est Dieu étant d'amour. Il nous a créés à sa ressemblance. Il nous a créés avec une capacité d'aimer. Et vous savez que le premier commandement que Dieu a donné, dans les 10 commandements, c'est de l'aimer lui, de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, et le prochain comme soi-même. Dieu nous a créés pour nous aimer. Et on s'aime, c'est formidable. On s'aime de mieux en mieux, la preuve c'est que les divorces se multiplient de plus en plus. Eh oui.
Dieu nous a créés à sa ressemblance pour que nous nous aimions. Il a créé ce monde merveilleux, tellement riche en beauté, en tout genre, en richesse. Il a voulu en faire une habitation où l'homme pourrait vraiment se sentir à l'aise. Et voilà ce que le monde est devenu. Dieu avait largement de quoi en vouloir à cette humanité qui a fait de ce monde et de lui-même ce qu'il en a fait. Vous vous rendez compte, vous construisez quelque chose de beau et puis quelqu'un vient pour tout détruire, comme ça. Quelle serait votre réaction? Ça aurait pu être la réaction de Dieu. Ça aurait pu être la réaction de Dieu. Mais au lieu de ça, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a fini par donner à l'humanité un sauveur. Et ce sauveur est venu, Jésus, son Fils unique et bien-aimé. Animé, bien entendu, du même amour que son Père. Et c'est par amour pour son Père qu'il s'est déclaré prêt à mourir pour l'humanité, que Dieu voulait sauver. Et voilà que Jésus, il fut animé, oui, du même amour. Et quel amour! Quel amour! Quand il est venu dans le monde, il a déclaré qu'il n'est pas venu pour juger le monde, mais pour sauver le monde. C'était clair. Et dans tout ce qu'il a dit et ce qu'il a fait, il a manifesté sa détermination de sauver le monde. En humanité qui ne savait plus à quel saint se vouer, il a annoncé le royaume de Dieu. Un royaume où règne l'amour, la paix, la bonté et tout ce qui s'ensuit. Tout ce à quoi nous aspirons en tant qu'êtres humains. Oui. Et Dieu est venu, Jésus est venu pour sauver ce monde. Et pendant les 3 ans qu'a duré son ministère, il a traversé tout le pays pas à dos de cheval, pas accompagné d'une escorte, mais à pied. Le plus simplement possible. Et il s'est rendu partout, même à Jéricho, la ville sur laquelle pesait une malédiction. Car lorsque Jéricho est tombé entre les mains du peuple d'Israël, sous Josué, Josué a dit que cette ville ne sera pas reconstruite, sinon au prix de l'aîné ou du plus jeune d'un fils. Une ville sur laquelle pesait une malédiction. Et c'est sous le règne d'un des rois le plus terrible qui a régné en Israël, Akab, lors de son règne. Et il y a un homme en Israël qui a pris la décision de reconstruire Jéricho. Et ça lui a coûté son fils aîné et son fils le plus jeune. Mais même cette ville, Jésus ne l'a pas évitée. Même là, il s'est rendu. Et on lui relate 2 miracles formidables qui sont passés. On l'a entendu dans un des messages des derniers dimanches. Là, il y a eu l'aveugle qui a été guéri. Et puis, Zachée, qui était un homme riche. Et pourtant, avait une telle envie de voir Jésus, de rencontrer Jésus. Et étant de petite taille, il n'a pas trouvé de place dans les premiers rangs pour voir Jésus passer dans la rue. Alors cet homme, qui était un homme distingué dans cette ville de Jéricho, comme un gamin, il a couru en avant et a grimpé dans un arbre afin de pouvoir voir Jésus quand il passerait. Et on pense souvent que ce Zachée était un pécheur particulièrement grand, parce qu'il était riche. Et parce qu'effectivement, ces douanières de l'époque pouvaient s'enrichir. Mais je fais un petit calcul, puisque Zachée a promis à Jésus de vendre la moitié de ses biens et de rendre quadruple à ceux auxquels il aurait fait du tort. Faites le calcul. Il aurait pu faire un emprunt pour pouvoir exécuter sa promesse. Oui. Voilà ce qui se passait à Jéricho grâce à Jésus. Jésus nous aime. Et de quelle façon a-t-il prouvé cet amour? Mais précisément en faisant du bien. Que du bien. Il a guéri les malades presque à tour de bras. Et pourtant, il a dû mourir sur une croix. Et ce n'est pas seulement une bévue judiciaire, mais c'est parce que Jésus devait mourir. Pour sauver l'humanité, il ne suffisait pas qu'il soit revêtu de la puissance de Dieu pour pouvoir guérir les malades et faire du bien. Il fallait autre chose. Il fallait un sacrifice. Il fallait un sacrifice. Le sacrifice a joué un très grand rôle dans l'Ancien Testament. Un très grand rôle. Il faut un sacrifice parce que le mal ne peut pas rester impuni. On ne peut pas fermer un œil et même les deux yeux devant le mal. Si quelqu'un fait du mal, il mérite une punition, un châtiment. Sinon, ben, on se rend complice du mal. C'est comme si on avouait que le mal fait partie de la vie. Oh, les ravages que fait le mal dans la vie de tout être humain, on en sait quelque chose. Il fallait donc un sacrifice. Et Dieu, au lieu de faire subir à l'homme le châtiment qu'il avait mérité par son péché, il a fait mourir son fils. Et c'était prévu. C'était prévu dès le départ. Lorsque Jésus a annoncé pour une des premières fois qu'il allait mourir, vous connaissez la réaction de Pierre. « Ah non, Seigneur, jamais de la vie, tu peux donc mourir comme ça. » Et quelle fut la réplique de Jésus? « Rien de moi, Satan. » Parce que là, Pierre, à ce moment-là, n'avait encore rien compris à la venue de Jésus. Qu'il fallait qu'il meure pour expier le péché du monde. Jésus aurait pu refuser. Et nous apprenons par le récit de sa prière dans le jardin de Gethsémané quel combat il a dû livrer avant d'accepter, vraiment. C'est toi que Dieu lui a tracé, de mourir sur une croix, comme le pire des malfaiteurs. Mais ce n'était pas une chose légère pour Jésus, pas du tout. Je me souviens quand j'ai prêché sur la parabole du semeur. Je dis que quelqu'un qui s'y connaît en point de vue semence, il sait que c'est stupide la façon dont ce semeur sème. On ne sème pas de façon à ce qu'une partie tombe sur le chemin, une partie sur le terrain rocailleux, et une autre partie sur les ronces et les mauvaises herbes, et une partie seulement sur la bonne terre. Mais je me souviens d'avoir dit, on peut se dire, oui, Dieu a pu se permettre ce gaspillage. Mais pas du tout. Parce que pour que sa parole devienne semence de vie, il a fallu que Jésus meure. Ça lui a coûté son fils. Et maintenant, l'amour de Jésus dans toute cette situation. Lors de la façon dont, surtout le clergé, hein, les gens pieux, les pharisiens, c'était la classe pieuse en Israël, hein, comment ils ont accueilli Jésus. Et quand on pense, mes chers, j'ai envie de hurler quand je lis ce passage, que le souverain sacrificateur, qui était le pape, le chef suprême religieux d'Israël, quand il a déclaré « Nous avons une loi, et d'après cette loi, il faut qu'il meure, parce qu'il se dit fils de Dieu. » Il a blasphémé en affirmant qu'il est fils de Dieu. Et un jour déjà, Jésus a répondu à ses adversaires, si je disais, comme vous voulez que je le fasse, que je ne suis pas fils de Dieu, je serais menteur comme vous. Je ne peux pas dire que je ne suis pas, puisque je le suis. Mais voilà comment la méchanceté de l'homme s'est manifestée à l'égard de Jésus et de Dieu. Inouï, inouï. Et Dieu s'est laissé, Jésus s'est laissé bafouer, crucifié sur une croix, comme le pire des malfaiteurs. Alors qu'il se savait fils de Dieu, il le savait déjà 12 ans, quand ses parents l'ont cherché au temple, et qu'il y est resté, et que ses parents l'ont cherché, lui ont dit, pourquoi nous avons dû faire cela? Il a répondu, mais ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Il savait qu'il était fils de Dieu. Et il a été condamné à mort, parce qu'il s'est dit fils de Dieu. Tout simplement parce que le clergé suprême ne l'a pas reconnu, alors qu'il était censé connaître l'Ancien Testament, dans lequel il y avait question de Jésus. Voilà l'amour de Dieu, mes chers. Et qu'on y réfléchisse, que nous avons un sauveur tel qu'il a accepté de subir cette mort atroce à la croix pour me sauver. Parce qu'il fallait que quelqu'un nous sauve du jugement de Dieu et de la colère de Dieu. Et Jésus l'a fait par amour pour nous. Et voilà donc, oui, à qui nous avons affaire si nous proclamons Jésus, notre Sauveur, revêtu de la toute-puissance de Dieu, revêtu de la toute-puissance de Dieu. Mais pour y parvenir, il nous faut le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est souvent considéré comme l'enfant pauvre dans nos églises. Lorsqu'il y a eu le renouveau dans notre pays aussi, et qu'on a à nouveau mis en honneur le Saint-Esprit, et là, il y a des pasteurs qui ont dit, oui, il faut reconnaître que le Saint-Esprit, c'est l'enfant pauvre. Dans nos églises, on ne sait pas trop qu'en faire. Mais c'est par le Saint-Esprit qu'on est rendu capable d'obéir à Dieu, de renoncer à tout mal. Et il faut y renoncer. Et là, il faut être sur ses gardes, mes chers. Parce que nous vivons dans une société où règne encore le mal. Et nous risquons de nous laisser contagieux. On peut même faire partie de l'Église de Pentecôte et commettre des choses affreuses. Je ne cite comme exemple que juste un exemple. Un exemple. Pas pour juger, mais pour rendre attentif au danger dans lequel nous sommes exposés dans ce monde, qui est sous la domination du malin. Et certes, Jésus a dépouillé le diable de son pouvoir, mais il est encore là. Et c'est un fief rusé, croyez-le-moi. Un fief rusé. Et voilà l'exemple que je voudrais vous signaler, que j'ai appris incidemment. Une jeune femme a confié à des amis qui s'est démarié quelques 2 ou 3 ans auparavant, que si elle ne se séparait pas de son mari, elle allait sûrement finir par se suicider. Tellement sa vie avec cet homme qu'elle avait aimé au moment où elle l'a épousé, la vie est devenue impossible. Je le répète, ce n'est pas pour un jugement que je dis cela, mais pour vous rendre attentif aux dangers auxquels nous sommes exposés. Parce que le diable est toujours là. Et il sait s'y prendre d'une façon terrible. C'est pour ça qu'il nous est demandé d'être vigilants. D'être vigilants. Et d'être lucides pour voir ce qui se passe. Je cite un autre cas d'un couple qui s'était marié il y a déjà beaucoup plus longtemps que 3 ans, mais qui maintenant est en train de chavirer. Je leur dis, il fallait voir les signes rouges, les signes rouges qui sont allumés au moment où ça a commencé à se garder dans votre vie. Il faut être vigilant. Mais si on a recours à notre Sauveur qui nous aime tant, qu'il a donné sa vie pour nous, alors nous recevons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, cette puissance d'en haut qui nous rend forts dans l'homme intérieur. Et alors nous sommes amenés à connaître toutes les dimensions de l'amour de Dieu. Est-ce que vous avez remarqué qu'il y a une dimension qui est notée ici, qui n'est pas courante ? Dans l'espace, on est capable de saisir 3 dimensions. C'est la largeur, la longueur et la hauteur. Puis fini. La 4e dimension nous échappe. L'infini, l'éternité. Vous avez déjà essayé de voir la fin de l'univers. Moi, ça me donne une chronique. Et quand on pense, mais qu'est-ce qu'il y avait ? Il y a une origine, un autre monde, mais qu'est-ce qu'il y avait avant ? Qu'est-ce qu'il y avait ? Le vide, mais ben, le vide. On ne peut pas se le représenter. Ça ne dépasse la 4e dimension. Et dans l'amour de Christ, il y a aussi cette 4e dimension, précisément, qui dépasse toute connaissance, écrit Paul dans ce même passage. Qui dépasse toute connaissance. Vous savez comment nous réagissons quand quelqu'un nous blesse, nous fait du mal, hein? Ce n'est pas l'amour. Mais Jésus est resté fidèle à son amour au moment où le souverain sacrificateur a dit, nous avons une loi, et d'après cette loi, il faut qu'il meure. Jésus avait le droit de bondir, de sortir des gonds et dire quoi ? Qu'est-ce que tu dis là ? Tu prétends affirmer cela ? Où est cette loi de Moïse ? Mais nous, il a accepté. Il a accepté car il savait qu'il devait mourir pour nous sauver. Et il est mort pour nous. Pour chacun d'entre nous, il est mort. Il a effacé nos péchés. Dès le début, Jean-Baptiste l'a proclamé, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le péché est ôté. Dieu n'en tient plus compte. Et je suis persuadé que ceux qui vont se retrouver en enfer, ce n'est pas parce qu'ils ont commis un vol ou un adultère, je ne sais pas quoi, parce qu'ils auront refusé la grâce de Dieu. C'est la plus grande offense que nous pouvons faire à Dieu, de refuser son amour. Quand on sait ce qu'il a payé pour nous obtenir ce pardon et le salut, c'est la plus grande offense. Alors, soyons vigilants et cultivons l'amour pour Dieu et l'amour pour Jésus. Et aimons-nous les uns les autres comme Christ nous a aimés. Allons connaître déjà, on aura déjà l'avant-goût du paradis sur terre. Gloire à Dieu. Amen. Oui, Seigneur, nous te bénissons pour cette œuvre de rédemption. accomplie par ton Fils, qui t'a obéi jusqu'à la mort, et la mort sur la croix. Nous t'en bénissons, Père, et te demandons pardon de ne pas avoir suffisamment montré de la reconnaissance pour cet amour que tu as manifesté pour nous en Jésus. Tu nous as souvent fait du souci pour des difficultés que nous rencontrons dans notre vie, peut-être même pour tes maladies. Mais ta puissance va jusque-là. Il est bien écrit que Jésus a porté non seulement nos péchés sur la croix, mais aussi nos maladies. Et nous pouvons attendre de ta part des guérisons. Là, il n'y a plus rien à espérer. Mais nous te rendons grâce, Père, pour un tel amour. Et nous voulons nous consacrer tout à fait à toi et nous nourrir de ta parole et nous laisser imprégner de ton esprit pour que nous devenions tes enfants en vérité, pour rendre témoignage de toi dans notre monde qui, lui, va de plus en plus vers sa dérive. Pour ta gloire, pour ta seule gloire. Amen.